Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, pas moins de 32 buts en une soirée. La 10e journée de Ligue 1 a été faste, mais il n'aura fallu qu'une tête d'Aruna Sanganté pour contenter le peuple ciel et marine. Victoire 1-0 face à Brest, deuxième succès en 4 jours et 3 places gagnées au classement. Au lendemain de cette belle opération, place au club de la presse dans votre débrief en compagnie, comme toujours, de Mathieu Billot de Foot Normand. Bonjour.
Bonjour à tous.
À vos côtés aujourd'hui, Sébastien Buron, suiveur du hack pour le quotidien sportif L'Équipe. Bienvenue.
Merci, bonjour.
Et David Poinel du service des sports de Paris Normandie, salut.
Salut à tous.
Et un salut amical à Luc Gallet du courrier Cauchois qui ne peut pas être avec nous mais qui nous a quand même laissé son avis, on l'entendra messieurs. Ensemble on va parler de ce match sous le crachin où Brest a pris l'eau face au collectif Havrais. On fera un point d'étape aussi au tiers du championnat puis on parlera des recrues qui vous ont éventuellement convaincu ou non jusqu'ici. C'est parti pour le débrief 100% hack, saison 2, épisode 5.
Salut tout le monde, écoutez, je ne peux pas être présent avec vous autour de la table, mais je vais quand même aborder un petit peu ce match forcément face à Brest, un match solide de nos ciels et marines, je trouve dans l'ensemble qu'on maîtrisait leur sujet malgré tous les changements opérés par Didier Digard dans cette rencontre-là. Moi j'ai bien aimé la solidité voilà, qui s'est affichée malgré tous ces changements, avec voilà, cette possibilité en plus de faire un deuxième clean sheet en deux matchs après la courte victoire aussi à Auxerre. Je trouve voilà, qu'il y a une cohérence dans l'ensemble dans cette équipe et ça fait plaisir à voir. Reste encore à confirmer pour prendre encore un peu plus nos aises sur la zone rouge.
Les fidèles de ce podcast auront reconnu Luc Gallet du Courrier Cauchois, partenaire habituel du débrief 100% hack, un homme plutôt satisfait de ce qu'il a vu hier soir et je pense que c'est plutôt globalement peut-être l'avis autour de cette table. Qui commence, Sébastien?
Avec plaisir.
priorité au national.
Non, j'étais évidemment très satisfait de la prestation havraise. Surtout, ce qui me plaît énormément, c'est que Didier Digard a fait beaucoup tourner entre Auxerre et le match hier face à Brest. Il y a quand même eu 6 changements dans le 11 de départ. Et j'ai eu l'impression que collectivement, ça s'était pas ressenti. Ce qui montre que l'équipe, pour moi, a franchi vraiment un palier important. L'entraîneur peut donc changer beaucoup de joueurs. Le collectif reste soudé. La performance s'en est ressentie, elle était d'un très bon niveau. Que ce soit Auxerre ou Brest, c'est actuellement en difficulté par rapport à leurs objectifs. On peut dire que peut-être que le Havre les a affrontés au bon moment, mais il n'y a jamais vraiment de bon moment, il faut le créer. Et collectivement, je pense que ça a bien marché. On les a peu vus, les adversaires, et la victoire a été méritée.
Ouais, c'était peut-être pas l'affiche effectivement la plus attendue de ce multiplex, le Havre-Brest. David, un avis sur
non,
ce match?
Comme beaucoup de supporters du HAC, j'ai été très surpris par la compo de Didier Digard. Ces 6 changements, pourquoi pas faire tourner lors d'une semaine à 3 matchs, mais je me disais que ce match était... pouvait être particulièrement important, pouvait confirmer toutes les bonnes choses entrevues depuis le début de saison. À Brest d'ailleurs, Eric Roy n'avait pas fait lui énormément tourner, hein, les tauliers étaient là.
Pas tellement hein, aussi, il manquait des joueurs dans l'effectif aussi. Mais...
Oui, mais en tout cas, il avait quand même mis les principaux, ses principaux cadres étaient là. Effectivement, Didier Digard l'a dit à la fin du match, je savais que je serais attendu au tournant en cas de contre-performance et c'est sûr. Qu'on lui aurait reproché certains de ses choix. Et effectivement, force est de constater que ça lui a donné raison et que la prestation des Ciels et Marines a été très, très convaincante.
Mathieu, il n'y avait ni Yacine Keshta, ni Rassoul Ndiaye, ni Yanis Zouaoui au coup d'envoi. Et pourtant, on s'est peut-être pas dit, tiens, il manque au moins sur la première mi-temps.
Ou même sur le match, on ne s'est pas dit qui manquait. Après, certains sont rentrés en cours de partie. Mais voilà. Bon, après, c'est un peu quand même la patte, peut-être pas autant, mais Didier Digard, je voyais qu'il avait utilisé 23 joueurs depuis le début de la saison. Bon, sachant qu'au HAC, vous vous dites que normalement, vous n'avez pas un effectif aussi profond peut-être que ça. Et en préparant l'émission, je suis retombé sur les confs des fois de l'année dernière, où déjà, c'était un peu... il était sur le discours qu'il faut mobiliser tout le monde, concerner tout le monde. Je pense que c'est aussi une question un peu d'état d'esprit. Hein. On sait que le maintien, enfin à l'image de la saison dernière, peut jouer jusqu'au dernier moment, donc faut perdre personne en cours de route. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils cherchent à faire, en tout cas, à vraiment mobiliser un maximum de joueurs. Et donc là, forcément, quand ça réussit, bah, c'est jackpot, quoi. Donc,
Il y a une volonté aussi d'être difficilement lisible pour le coach adverse. On en parlait avec Mathieu avant la rencontre. C'est très tendance aujourd'hui. Beaucoup de coachs veulent être vraiment acteurs protagonistes, faire les choix gagnants et pas forcément être lisible pour l'adversaire. Et Didier Digard, depuis son arrivée sur le banc, on en parlait, c'est très très rare qu'il aligne deux fois la même équipe.
Il l'a fait en tout début de saison, avec notamment la révélation un petit peu faudée de Couré, tout en expliquant dans la conférence de presse d'avant qu'il allait changer pour brouiller justement les pistes. Mais ouais, Didier, les deux compos de suite, les mêmes, c'est pas son truc.
Mais même en termes de système, il en change. Et ça se ressent pas sur le terrain, en fait. Les joueurs ont vraiment pris des habitudes. Ils sont plus adaptables au niveau tactique. Et ça, pour un entraîneur, c'est un luxe, en fait. Vous pouvez changer de tactique, vous pouvez changer de joueur. Aujourd'hui, ça lui offre des possibilités qu'il n'avait pas l'an dernier. J'ai souvenir du match face à Toulouse à domicile où Didier Digard avait tenté un 4-2-4 qui avait pas réussi, objectivement. Et là, aujourd'hui, on sent que en cours de match même, il peut changer défense à 3, défense à 4. Et franchement, en effet, comme disent David et Mathieu, oui, ça peut déstabiliser l'adversaire.
Mais il avait trouvé une continuité avec cette défense à 4 depuis la deuxième moitié de saison dernière. Mais c'est vrai qu'hier, l'une des grosses surprises, au-delà des choix des hommes, c'était aussi le système avec cette ligne de 3 derrière, ces deux joueurs sur les côtés. Il est repassé une défense un peu hybride et effectivement, ça lui offre une arme supplémentaire pour les semaines à venir.
Pas de regret de ne pas avoir fait le break finalement et d'avoir planté un deuxième but face à une équipe brestoise qui était quand même très en dessous. Peut-être les entrants auraient pu apporter ce petit supplément d'âme pour mettre un deuxième but, non?
Il n'y avait pas de quoi.
Ce serait être difficile,
c'était
exigeant.
C'était vraiment faire le gourmand parce que je veux dire, à part un ou deux points chauds, c'est vite fait, mais hormis le coup franc direct dans la surface qui a été sifflé puis annulé, quand vous prenez vos notes,
ce qui est fort, c'est que là, qu'on sait très peu depuis, alors sur ce match, mais même depuis quand on se souvient de la saison passée. Alors oui, c'est un hack offensif, mais un hack qui concédait aussi énormément d'occasions, qui prenait un paquet de buts. Et là, je crois que même dans les statistiques avancées, le hack est l'une des formations de Ligue 1 qui concède le moins d'occasions chaudes à l'adversaire.
L'an dernier, quand tu gagnais un match, tu avais toujours peur à un moment, quand tu étais supporter du Havre, que ton équipe prenne un but, se fasse rejoindre. Et en fait, c'était à qui aller remarquer le plus. Là, que ce soit à Auxerre ou hier contre Brest, à 1-0, les adversaires se sont créés très peu d'occasions, très peu d'opportunités. Et franchement, pour moi, en tout cas, c'est une sorte de cap défensif qui a été franchi de façon extraordinaire en quelques semaines, quelques mois.
Et je pense que l'arrivée de Moridio, alors il y a eu du bon et du moins bon depuis son arrivée à l'ancien Clermontois, mais je pense que notamment dans sa présence dans la surface et sorties aériennes, je pense que Moridio, il a contribué à stabiliser cette défense et je pense qu'il apporte un vrai plus à l'arrière-garde si elle est marine.
Et aussi Aruna Sanganté, moi je trouve, après un début de saison, mais vraiment un tout début de saison, où on l'avait un peu pointé du doigt sur 2-3 performances, il s'est remobilisé, je sais pas, remis en cause, et du coup je trouve qu'on est en train de voir le meilleur d'Aruna Sanganté dans la régularité des performances, même à l'intérieur même d'un match, où Aruna c'était un garçon qui était capable de faire des très bons matchs, mais avec des petites sautes de concentration, et ça lui plombait un peu son match. Et là, je le vois moins, en tout cas sur les dernières semaines de compétition.
En tout cas, hier, il était très bon parce que non seulement il marque, mais en face avec Lloris et le petit Zagadou, ils avaient un client quand même à Jorque. Ouais. Ils l'ont quand même bien contenu. Ils étaient tout en.
On l'a assez peu vu finalement
Non, bon, on a assez peu vu les Brestois de manière générale, sans vouloir vexer.
Il a quand même touché le poteau.
C'est la seule alerte sur une demi-volée dans un angle fermé improbable, ce qui montre bien qu'il peut être dangereux à n'importe quel moment.
Exactement.
Mais sinon, j'ai beau reprendre mes notes, par un centre
ou une
que Moridio sort très bien aussi, mais oui, ils ont quand même rien. Et moi, je trouve que ça, on l'avait un peu évoqué en début de saison, ça évoque aussi cette possibilité que Le Havre est en capacité de matcher avec beaucoup plus d'équipes que la saison dernière. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Je sais pas si vous partagez ce point de vue, mais on a l'impression que c'est vrai que l'année dernière, on disait c'est un championnat de maintien à 4-5. Moi, pour moi, cette année, sur le papier, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils peuvent rivaliser avec les deux tiers des équipes.
Ouais, après, il faut pas oublier qu'en dernier, Le Havre a gagné à Lens et à Lille, par exemple.
Mais en deuxième partie de saison.
Oui, tout à fait.
Avec des recrues du mercato qui avaient un peu tout changé, je trouve, sur le. Là, je trouve que c'est une physionomie. Oui. T'as construit un effectif. avec tes moyens ou tes peu de moyens. Et je trouve que ce qui dégage l'équipe, c'est différent quand même.
Ouais, c'est plus solide.
C'est, ouais, puis c'est plus cohérent, c'est plus. Et je trouve ça intéressant. Il y a très peu de matchs où en fait on peut dire. Et même Marseille, même si ça a tourné à la fin en grosse défaite, pendant une demi-heure, on va pas revenir forcément dessus aujourd'hui, mais jusqu'à cette, cette histoire de pénalty main dans la surface, en dehors de la surface, bah, franchement. Le Havre, ils font le match avec l'OM.
Ouais, t'es quand même, en termes de confiance, je pense, la deuxième moitié de saison dernière, t'as quand même gonflé ton capital confiance au niveau de l'effectif des joueurs, parce que finalement, il y a eu beaucoup de recrues, mais il y a beaucoup de joueurs de la saison passée hein, qui jouent encore dans le 11 cette année. Je pense qu'au niveau du coach aussi, hein, Didier Tiguer, je pense que l'épilogue de la saison dernière, ça lui a fait beaucoup de bien, et on sent que lui aussi, il a gagné en confiance, en mainmise aussi sur son groupe. On le voit aussi beaucoup plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais protagoniste sur son banc de touche, acteur des rencontres. Et on sent que lui-même a aussi passé un cap.
Une petite question, puisque vous abordez le coach. Là, il y a quand même un troisième match qui se profile en une semaine. Hein. Est-ce que c'était aussi cette façon de préserver les joueurs, le coaching gagnant pour la troisième rencontre? On le verra dimanche, mais voilà, la passe de 3, vous l'attendez, messieurs?
Juste l'avantage déjà, c'est d'avoir gagné ces deux matchs, c'est de pouvoir se présenter à Toulouse sans obligation de résultat et avec une certaine légèreté entre guillemets, même si chaque point est précieux à prendre. Vas-y.
Moi, je pense qu'il avait rien à perdre en fait en faisant tourner face à Brest, parce que ok, il pouvait perdre un match évidemment, mais s'il perdait le match en faisant jouer les joueurs qui n'étaient pas habituellement titulaires, ça aurait très bien pu servir d'explication en disant « Bah voyez les gars, vous n'êtes pas titulaire d'habitude, vous avez joué hier, vous avez perdu. Ça peut arriver, vous manquez peut-être de rythme, mais il vous reste encore un franchir à pallier. Mais en tout cas, j'ai tenu ma promesse, vous avez votre chance, et la chance, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore saisie. » Là, il l'a fait, et en plus, ça a marché. Il avait absolument rien à perdre, pour moi, en tout cas. Et là, du coup, comme dit David, tu vas au prochain match, en fait. Tu as déjà pris 6 points en 2 matchs, là, sur cette semaine à 3 matchs. Même si tu perds, évidemment, t'as pas envie de perdre hein, quand t'es entraîneur et joueur. Mais en tout cas, pour moi, cette semaine, elle est déjà réussie. Ouais.
Moi, je pense qu'il avait quand même à perdre hein, hier soir, dans le sens où voilà, t'es sur une bonne dynamique, t'as trouvé plus ou moins une formule, et tu mets le petit Zagadou, tu mets du Kiremé, ouais. Tu changes de système. Il l'a dit, on m'aurait attendu au tournant. Et c'est sûr que si le Hack avait perdu hier soir, on lui serait tombé dessus en disant « Mais pourquoi il a changé autant de bonhommes et pourquoi il a changé de système ?»
Je pense qu'il aurait préféré perdre peut-être les médias face à lui que perdre son groupe.
Oui,
et
c'est sûr que ça...
Et ton groupe, tu ne veux pas le perdre en fait. Parce que t'as une saison à tenir. C'est pas une semaine, c'est une saison entière.
Mais... Oui, il le dit souvent. Il l'avait dit à Benoît avant le match. Il avait dit « Moi, comment je vais justifier derrière je vais avoir des gars qui vont me dire « Mais moi, je sers à quoi en fait si je ne les fais jamais jouer ?» Et effectivement, c'est très important. Un Digger, il a été très inspiré par Carlo Ancelotti. Il a passé ses diplômes d'entraîneur, notamment. Il a passé un moment à Madrid auprès de Carlo Ancelotti. Il est très marqué par ce côté gestion humaine, gestion de groupe. C'est que Carlo Ancelotti disait parfois, les remplaçants sont même plus importants que mes titulaires. Je crois que Didier Digger, ça, il l'a dans un coin de la tête et il sait à quel point, il l'a vu aussi la saison dernière, à quel point la vie de groupe est précieuse pour, bien sûr, la durée, pour aller chercher des objectifs.
Et pas de statut pour les joueurs, quelle que soit leur importance sur le terrain. On l'a vu avec l'épisode Abdoulaye Touré.
Oui.
Peu importe le statut, si vous sortez, entre guillemets, du cadre qui est fixé par le coach, le staff et les dirigeants, bah vous êtes sanctionné, que vous soyez un titulaire indiscutable ou un petit jeune en quête de quelques minutes. Et ça, le message. Et forcément, qu'en plus, les résultats, c'est toujours les résultats qui vous donnent raison, forcément. Ouais. Bah, ça assoit votre légitimité sur le banc. Donc,
ouais, pour être crédible, pareil avec Pizarro, il estime qu'il n'a pas le niveau. Ça doit être une recrue un peu phare de l'intersaison, un joueur de l'Udinez, un Chilien international. Voilà, il estime qu'il n'a pas le niveau. Il reste à la maison et voilà.
Et bah justement, on va continuer à parler de ce groupe de Didier Tiguer, groupe renouvelé à l'intersaison.
On a bien bossé depuis le début de saison, on faisait des très bons matchs, mais on était mal payés. Là maintenant, on a beaucoup travaillé la solidité défensive à l'entraînement et ça nous sourit avec deux matchs sans encaisser de but de suite. Maintenant, nous en tout cas, on sait qu'on a un groupe homogène avec de la qualité, on a confiance en nous et on avance et on espère continuer comme ça. Quand je commence le match, j'espère ne pas prendre de but. La seule chose que j'ai dit aux joueurs après le premier clean sheet à Metz, c'est que mon record en Ligue 1, c'est 10 avec Clermont. Donc j'espère faire, faire plus ici avec les gars.
Faire plus de 10 clean sheets d'affilée. Voilà, le pari est lancé. Il reste 24 journées pour y arriver. Dans le débrief 100%, c'était donc Moridio, l'un des deux gardiens havrais arrivé cet été. On avait envie de vous demander, hein, messieurs, un avis sur les recrues havraises après 10 journées, s'il n'y avait qu'un nom à retenir, par exemple. Luc Gallet, lui, m'a déjà répondu en avant-première. On va l'écouter.
J'hésite entre deux joueurs, forcément Ayumu Seko, que je trouve très intéressant pour sécuriser un peu l'entrejeu et pour aussi sa clairvoyance au milieu de terrain. Je mettrais quand même un petit mot sur Moridio aussi, le gardien, qui se montre plutôt solide sur certains matchs. On l'a vu notamment contre Auxerre dimanche dernier, où j'ai trouvé qu'il avait fait une prestation très très convaincante. Il arrive à sécuriser aussi un peu son équipe par moment, même s'il n'a pas été exempt de tout reproche. Je pense notamment à un but contre Monaco en première journée, mais voilà, mon cœur balance entre ces deux joueurs-là.
Alors messieurs, votre
cœur balance entre qui?
On va commencer peut-être par David.
Non,
bah,
la balance pense quand même lourdement en faveur d'Ayumu Seko. Hein. C'est...
Donc la recrue japonaise arrivée.
La recrue japonaise, effectivement, la très belle surprise, surtout qu'on l'attendait en défense centrale. Didier Digard, par la force des choses, l'utilise au milieu. Et bien plus les semaines passent, plus on est convaincu par ce choix. Effectivement, hier soir, il a été rayonnant, que ce soit la récupération, mais aussi dans l'utilisation du ballon. Hein, pied droit, pied gauche, jeu court, jeu long, très peu de déchets, toujours actif, toujours bien placé, discipliné tactiquement. Non, difficile de pas placer Ayumu Seko comme la recrue numéro 1.
Oh, la pression, c'est difficile de pas placer. Alors que t'allais pas du tout dire ça. Ça se voit ta tête.
Non, parce que David a déjà quasiment tout dit. Mais moi, surtout, ce qui marque avec Ayumu Seko, c'est qu'il sent très bien les coups adverses. Il sait où se placer pour annihiler les actions qui sont en cours de développement. Il est super intelligent. On a l'impression qu'il sait ce que va faire l'adversaire, et ça c'est très très fort, et pour une sentinelle c'est évidemment très précieux pour l'entraîneur, parce que du coup ça signifie que non seulement tu stoppes en plus l'action adverse, mais en plus ça te permet toi de construire, et le but à Auxerre, c'est Ayumu Seko qui est à l'avant-dernière passe, et en fait même il trouve les angles, comme tu dis David, il trouve en plus les angles, les décalages, c'est excessivement précieux pour un entraîneur, et je pense aussi que ça... Alors, Moridio a été évoqué aussi, mais les deux joueurs apportent non seulement une garantie défensive, Seko offensive aussi, parce que du coup, ça permet de relancer plus proprement, de moins concéder, de moins subir, donc de jouer un peu plus haut. Mais défensivement, les deux sont essentiels, et il y a une stat qui, pour moi, est vraiment très importante et qui traduit bien cette évolution du Havre. Le Havre est sur deux clean sheets d'affilée. C'était pas arrivé depuis novembre 2023. Ça va faire presque 2 ans. Vous vous rendez compte? Presque 2 ans. Deux ans où vous n'avez pas réussi à faire deux clean sheets d'affilée. Mais pour une équipe, mentalement, c'est dur. Ça signifie qu'à chaque fois, vous savez que vous allez prendre un but, et pour gagner, il faut en mettre au moins 2. Bah là, depuis 2 journées, le Havre n'a plus ce problème. Un but, ça suffit.
Mathieu.
Ouais, donc c'est forcément ces deux joueurs-là, mais surtout je regardais un petit peu les feuilles
de... On va pouvoir faire les flops aussi,
les feuilles de compo. Alors on peut pas dire que c'est des flops, hein, parce que forcément quand vous avez peu de moyens, vous faites des paris, il y a des joueurs à relancer, on l'a vu, par exemple tout le monde peut être utile, hein, à l'image de Godson Kiereme qui avait pas du tout joué, qui fait une passe D contre Rennes, ouais. Donc encore une fois, mais quand vous regardez un petit peu les 11 de départ, vous avez quasiment que... Enfin, c'est 3-4 joueurs qui jouent. Ouais, donc, deux indiscutables pour moi, effectivement, c'est Moridio et Ayumu Seko. Mmh. Le troisième qu'on peut mettre, c'est Ali Samata, bon, qui n'était pas là, qui était blessé hier, mais on voit qu'il éprouve quelques difficultés, notamment, il n'arrive pas à débloquer son compteur. Et ça, pour un attaquant, c'est quand même ça commence à peser. En début de saison, vous aviez la révélation Fodé Doucouré, qui joue un petit peu moins, sans que ça soit problématique et tout. Mais sinon, en fait, j'ai envie de dire, parce que le succès du hack actuel, c'est le succès des cadres qui sont là, mais depuis même quasiment la Ligue 2 pour certains, et même pour la plupart. Aruna Sangoté, Gauthier Lloris, Yacine Keshta.
Loïc Nego qui est là.
Loïc Nego qui est un cadre depuis que le club. Enfin. Rassoul Ndiaye quand même, que je trouve très intéressant qu'il soit titulaire ou remplaçant.
Abdoulaye Touré aussi quand
même. Bon, même s'il a fait un début de saison en dessous de ses standards, le HAC pourra pas faire une saison correcte sans un bon Abdoulaye Touré, ça me paraît rien dire. Donc c'est quand même ce...
Issa Soumaré,
j'ai oublié, qui est peut-être le joueur qui a le plus progressé depuis l'arrivée de Didier Digard. Et en même temps, c'est mérité parce qu'on peut dire que le coach lui a fait largement confiance.
Sachant qu'il y a un an en arrière, c'était pas la même.
La progression
dans les commentaires, j'entends.
Il y a un an en arrière, le coach il se faisait taper dessus en disant comment ça se fait, comment tu peux mettre ce joueur-là.
Son nom était sifflé à l'annonce des compos, était sifflé.
Et qu'à chaque conf, il était interrogé dessus, et qu'à chaque conf, Ligard disait non, mais moi je sais qu'il a cette capacité.
Et à l'entraînement, il donne tout. Franchement, la progression de Sassou-Marie, elle est incroyable.
Et donc, mais tout ça pour dire que c'est vrai que Moridio et Ayumu Seko, c'est vraiment la plus-value du mercato, on peut dire, sur le moyen terme. Et sinon, je trouve que vraiment, c'est le succès des cadres du HAC.
Mais je trouve aussi que tu l'as évoqué, Mathieu, mais un Fodé de Doucouré a été pour moi très important en début de saison parce qu'il a apporté un peu de folie. Il a montré que les recrues qui n'étaient pas forcément connues pouvaient aussi faire le job. Et pour les titulaires aussi, pour moi, ça peut avoir deux conséquences. C'est de se dire, bah, en fait, je suis installé, mais pas tant que ça, parce que derrière, il y en a qui poussent. Ça montre aussi que l'effectif, il a gagné peut-être en qualité globale. Et puis, ça veut aussi dire que quand un leader n'est pas là, il sait aussi que le taf peut être fait par quelqu'un d'autre. Et peut-être que mentalement, ça libère d'un poids aussi. C'est-à-dire, si à un moment, je suis un peu moins bon, ça, on va quand même réussir à s'en sortir. Et je pense qu'un Fodé Doucouré a été ultra important. Là, en effet, il est un peu moins en vue. Mais voilà, il a prouvé en tout cas qu'il pouvait avoir le niveau.
En tout cas, ouais, l'une des grosses différences aussi avec la saison passée, c'est que cette saison, quand on se retourne sur le banc, quand Didier Digard regarde son banc, eh bien, il a des munitions à sa disposition et des joueurs qui, pour certains, auraient même été susceptibles de démarrer. Effectivement, la profondeur de banc, la profondeur d'effectif est beaucoup plus importante.
Même si on attend quand même... Oui. Plus, enfin, certains joueurs, pour l'instant, on sait pas trop, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas trop.
Moi, j'ai bien aimé Thomas Delaine hier.
Oui, Thomas Delaine, mais okay. Thomas Delaine, ça me surprend.
Mais qui est déjà, voilà,
Thomas Delaine, quand
on
regarde la Ligue
1
ou la Ligue 2 depuis 10 ans,
oui,
il est là, il fait son job, qu'il puisse, bon, je pense, malgré tout, que c'est Yannis Zoé ou le titulaire, sur le côté gauche. Ouais, mais Thomas Delaine peut parfaitement sur
il y a
un, deux,
des centres intéressants, des courses.
C'est pas l'heure sûre, on va dire Thomas Delaine à son niveau. Vous savez, peut-être qu'il va pas monter beaucoup dessus, mais il va jamais descendre très, très bas. Bon, je pense qu'en plus, c'est quelqu'un dans le vestiaire apprécié, qui connaît aussi ses luttes pour le maintien, donc il n'est pas surpris par là où il met les pieds. Mais c'est vrai que c'était un peu les recrues, style Reda Kadra, alors qui est malheureusement qui est embêté par des.
Qu'on aurait aimé voir à l'œuvre, voilà, un petit peu à l'heure.
Voilà, mais il y a aussi Younes Namli, qu'on a quasiment.
C'est la grosse déception du mercato estival. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on sent qu'il a quelque chose dans les pieds. Je crois que c'est Yacine Keshtia qui disait, on l'a vu arriver, deux passements de jambes à l'entraînement, c'est dit, ah ouais, il y a joueur là. Et on sent qu'il y a joueur, potentiellement joueur, mais on ne le voit pas malheureusement depuis le début de saison. Alors est-ce qu'il a besoin d'enchaîner? Est-ce que c'est son positionnement? Est-ce que, en tout cas pour le moment, effectivement, c'est un petit peu malheureusement une énigme.
Bah, c'est un joueur qu'on aurait pu estimer titulaire quand il est arrivé, et le fait est qu'aujourd'hui il l'est pas du tout.
Et il rentre même pas hier soir, par exemple, sur un match.
C'est
comme
ça, en fait, c'est ouais. Que là, vous, sur un match comme hier soir,
on le voit même pas.
On le voit pas. Alors qu'un Godson qui est arrivé est titulaire et dispute une grande partie du match. Alors c'est peut-être aussi une question de profil. On a l'impression quand même que vous avez besoin de garçons qui font des courses.
C'est ça.
On parlait de Fodé Doucouré en début de saison.
Digard, il aime les joueurs. Ouais, c'est ça.
Godson qui est arrivé avec ses limites, qui découvre la Ligue 1. Il court, il fait des courses, il fait des appels, il a du volume. Et on a l'impression quand même que devant, c'est ce que Didier Ligard recherche quand même un petit peu.
Exactement.
Et que les joueurs de pied.
Notamment sur les côtés, il a besoin de.
Enfin voilà, ce rôle-là, il est plutôt dévolu à Yacine Keshtia. Et il n'y a pas forcément de place autour pour un deuxième.
Mais même quand il a eu sa chance, il n'a pas montré grand-chose, malheureusement, pour le moment.
Le plus gros gouffre pour moi avec l'an dernier à la même époque, c'est. Là, cette année, tu gagnes des matchs, mais tes offensifs, hormis Sassou-Marie, ont du mal à marquer. L'an dernier, ils avaient du mal à marquer, mais tu prenais plein de buts. Là, t'en prends pas, en fait. Donc, ça t'offre une garantie inestimable. C'est celle de ne pas être déjà dans la zone rouge. Donc, mentalement, ça te permet de bosser un peu plus sereinement. Et en parlant des recrues, il y a un joueur, bon, c'est un gros pari, parce qu'il s'était un peu perdu depuis... Depuis peu de longs mois, plus de 2-3 ans, c'est Félix Mbembi. On se rend pas compte ce qu'il donne parce qu'on le voit pas. Et si on le voit pas, on se doute bien que c'est que pour l'instant il donne pas entre guillemets envie d'être lancé. Mais hier, il est pas entré en jeu non plus. On parlait d'attaquant. Lui, c'est un joueur offensif. Et s'il est pas sur le terrain quand offensivement l'équipe a du mal, ça traduit peut-être pour l'instant un joueur qui est pas encore au niveau exigé par la Ligue 1. Alors que c'est un joueur surprenant quand même. Il a quand même fait des matchs de Ligue des Champions.
Très jeune, effectivement. Mais comme tu dis, ça fait quand même un paquet de temps qui s'était un peu perdu. Là, il était remplaçant à Saint-Gall. Voilà, la marche est quand même très haute pour la guerre. Après, on va pas insulter l'avenir. Et
non,
voilà.
C'était quand même un joueur qui était cité pour être dans les Golden Boys à une
époque.
Il
était dans les 40.
Donc, donc tu peux te dire qu'il avait quelque chose, mais comme Namli, le mec peut avoir quelque chose, mais ce quelque chose, il faut le traduire sur le terrain, en fait. À un moment, faut être un joueur de foot, entre guillemets.
La marche est haute aussi pour le petit Damien Pizarro.
Pizarro,
on l'a évoqué un petit peu. Hein,
déception, ouais. Autre déception. Et c'est effectivement, de toute façon, la petite dédicace. Il n'est pas allé par quatre chemins. Il n'a pas le niveau, en tout cas à date, à ses yeux, il a pas le niveau. Il n'était pas dans le groupe à Auxerre. Il n'était pas dans le groupe hier soir. Début difficile. A priori, dans la vie de groupe, à l'entraînement, il ne pose pas forcément de problème, même si je crois que son intégration est aussi plus ou moins compliquée. Il vit encore à l'hôtel. Il n'a pas d'appartement. Je crois qu'on a regardé hier soir, on a eu écho comme quoi là, il avait supprimé toutes ses publications sur ses réseaux sociaux faisant référence au hack depuis son arrivée. Alors est-ce
peut-être qu'il a été aussi un peu
vexé.
Vexé, piqué. Et d'ailleurs, c'était peut-être un peu le but de l'intervention de Didier Ligard qui peut-être lui faire dire bouge-toi un petit peu, quoi.
Mais bon,
il est très jeune.
Mais il n'a pas beaucoup joué en équipe première, hormis dans son club. Je sais pas si c'est formateur, mais Colo-Colo au Chili depuis qu'il arrive en Europe, c'est compliqué. Et puis vous avez des garçons aussi qu'on fin, mais encore une fois on va citer, je crois que Tony Kiremi il a pas été dans le groupe en 2-3 matchs début septembre. Il est revenu, tout le monde se disait bah ça y est, c'est un mec qui vient de Ligue 2, c'était un pari, il est raté. Bon bah il rentre contre Rennes, il fait cette passe D. Derrière, première titularisation, je crois, pour lui, avec le Havre en Ligue 1. Donc ça prouve bien que, je pense, dans l'esprit de Digard, il n'y a personne qui est condamné. Mais je pense qu'il faut que les mecs, faut pas qu'ils pensent que leur tour va venir.
Mais il n'y a personne qui s'est non plus imposé. Parce que Kiremi s'est pas imposé pour l'instant.
Non.
Même Mimi non plus. Bon, Pizarro n'est pas dans le groupe. Donc il y a des joueurs, mais en fait, pour l'instant.
Donc bon.
Pizarro, quand on est prêté par un club de Serie A, l'idée c'est quand même de venir. Prendre du temps de jeu, emmagasiner du temps de jeu, découvrir vraiment le foot européen. Il n'a pas joué la saison dernière en Serie A. Pour le moment, il n'a quasiment pas joué avec le HAC. Les débuts sur le sol européen.
Il y a aussi une question de profil. Ça ressemble peut-être plus à un vrai numéro 9 qui termine les actions. Et encore une fois, on a l'impression quand même, c'est pareil logique pour une équipe de deuxième partie de tableau de Ligue 1, mais faut faire des courses, faut avoir du volume, faut avoir de l'activité. On disait qu'Ali Samata n'avait pas encore marqué, mais sur ses premières prestations, il avait plutôt enthousiasmé parce qu'il y avait beaucoup d'activité, il participait beaucoup à la construction du jeu. Voilà, donc au bout d'un moment, il faudra quand même qu'il marque un ou deux pions. Mais forcément, si vous avez un neuf qui est un peu, entre guillemets, attend les ballons et le rôle c'est finir, est-ce que ça correspond vraiment
après,
à...
Ils l'ont pris en connaissance de cause.
Ils l'ont pris en connaissance de cause, mais je pense aussi que vous pouvez, au bout d'un moment, vous faites un rapport.
Oui.
Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que j'ai sur le marché? Qu'est-ce que j'ai chez moi? C'est presque dommage, entre guillemets, plutôt qu'un garçon comme Élisée Logbo, jeune, se dise pas, là, faut que je fasse, là, il y a une place, là, il y a un truc à faire. On voit visiblement Digard et il élance les jeunes, petit Zagadou, il y a pas de souci. Donc il faut prendre la place, elle est dispo en fait.
Premier pas en Ligue 1 et première titularisation hier soir, c'est ça, pour Stéphane Zagadou.
Petit Zagadou, il vient d'avoir 17 ans.
17 ans
il a signé son contrat pro il y a très peu de temps.
Ça a été officialisé le jour de ses 17 ans du coup.
C'est ça, et il fait partie des grosses promesses du club. Petit frère de Dan-Axel Zagadou, qui joue en Bundesliga en Allemagne. Et donc, pour la petite histoire, en fait, Dan-Axel Zagadou, il est formé au PSG, notamment sous la coupe de François Rodriguez, l'ancien directeur patron de la KV Verte. Et donc, la famille Zagadou, quand elle allait chercher un club professionnel pour confier le petit qui était à Créteil, elle s'est tournée notamment vers le HAC parce que François Rodriguez avait eu Dan-Axel au PSG. Et donc, la famille savait que... elle pouvait faire confiance à celui qui est désormais en sélection saoudienne auprès d'Hervé Renard.
Comme ça, on est tout à fait complet.
Et le Stéphane Zagadou a quand même établi un record hier. Il a été titulaire hier à 17 ans et 5 jours, ce qu'on vient de dire. C'est le plus jeune titulaire en Ligue 1 pour un match du HAC depuis la saison 1947-1948.
Et là, il a fait parler la data. Hein.
Et là, c'est là où vous dites deux choses déjà. Premièrement, ça veut dire que l'équipe est solide parce que mine de rien, il n'a pas été en immense difficulté hier, il a plutôt réalisé un match propre.
Oui, oui,
c'est vrai. Et puis ça montre aussi que Didier Digard n'hésite pas à lancer des jeunes joueurs.
Oui, mais ça on le sait, hein, il était formateur exactement. À Nice, il l'a toujours dit, il a toujours eu un œil sur les jeunes, il n'hésite pas à les voilà. Les
mais dans un contexte peut-être plus compliqué, il n'aura peut-être pas pris le risque. Ça montre aussi, je pense, encore une fois, que pour lui, l'équipe est plus évoluée et plus mature que oui. l'on.
Il en parle quand même du petit Zagadou oui, depuis vrai. Longtemps. Je sais que quand on faisait les points médicaux pendant la prépa ou même oui. au début, il dit ouais, Zagadou est blessé, c'est dommage, on compte sur lui et tout. Alors à ce moment-là, personne n'y prêtait trop attention en disant oui, il dit ça, bon, ça. Ça coûte rien de le dire. Et en fait, non, visiblement, il comptait sur lui, sachant qu'il faut penser qu'à un moment dans la prépa, le hack s'imaginait peut-être perdre
oui.
Aruna Sangantier et ou Gauthier Loris et ou Étienne Youté, okay. Qui avait le petit aussi. Aloutiaré, sur lequel le club comptait, mais qui s'est résolu à le vendre parce que personne d'autre ne pouvait partir. Et donc, il y a aussi une manière aussi de préparer un petit peu l'avenir. Premier contrat pour 3 ans. C'est pas l'objet de l'émission, mais forcément la saison prochaine, faudra construire aussi une équipe avec beaucoup de joueurs en fin de contrat, notamment derrière. Et là, en faisant ça, c'est déjà un peu les premiers jalons qui sont posés.
Et puis ça te permet peut-être de maintenir du coup Seco comme sentinelle.
De toute façon, je vois pas qui, à part Seco, peut jouer à ce poste-là.
Didier Digard estime aussi. Et même les fois où on pouvait imaginer que le coach du HAC ferait redescendre Ayumu Seco lorsque. Il y a quelques matchs.
Notamment quand je crois Aruna a été indisponible.
C'est ça, je crois que pour Didier Digard, aucun doute qu'il y a une position pour Ayumu Seco, et c'est celle de Sentinelle. Et est difficile de lui donner tort vu ce que montre le japonais depuis plusieurs semaines.
On n'a rien fait malgré tout, c'est pas assez pour le maintien, mais ça montre que voilà, on a réussi à progresser. On a déjà fait des matchs nuls. Chose qu'on faisait pas, donc on gratte un petit peu, on arrive à enchaîner quand les matchs sont rapprochés, on arrive à enchaîner quand on change à la fois beaucoup de joueurs et de systèmes. Donc c'est pas anecdotique, mais ça nous offre pas beaucoup, beaucoup de garanties.
10 journées, 12 points, 3 victoires, pas encore de garantie donc Didier Digard pour le maintien. Bien sûr, mais un peu d'air au classement puisque le HAC est 11e aujourd'hui, messieurs. Je sais que dans vos publications respectives, on note souvent sur 10 les joueurs. Alors cette fois-ci, je vous demande une note sur 10 pour ce début de saison du HAC, pas simple.
Ah là, c'est pas évident. Moi, est-ce qu'on a le droit au demi-point
On met plus de demi-point
dans les notes des joueurs avant, mais c'était des demi-points, maintenant on
totalement en met plus. D'accord.
Non, mais en fait, j'hésite entre 6 et 7.
Choisir, c'est renoncer.
Ah, mais non.
Est-ce que vous voulez entendre la note de Luc Gallet, peut-être, allez, avant. Comme allez. Ça, allez. Au moins, voilà, ça vous mettra peut-être d'accord.
Après ces 10 premières journées de championnat, moi, je donnerai la note de 7 sur 10 au HAC à cette partie de la saison. Il y a quand même eu quelques résultats un peu mitigé quand même, sur notamment peut-être l'enchaînement entre le match de Lorient, celui de Metz, même éventuellement on peut noter celui de Rennes. Après forcément, Marseille, vu les circonstances, c'était compliqué. Mais voilà, le HAC est sur son tableau de marche, même un peu mieux que prévu, parce que voilà, il a atteint 12 points, ce qui était son total de points à mi-saison lors du dernier exercice. Donc on peut dire que c'est quand même globalement satisfaisant, surtout avec les circonstances que l'on connaît et les faibles moyens au mercato. Donc voilà, moi je mettrais la note de 7 avec voilà, notamment ces deux derniers coups gagnants contre Auxerre et Brest qui lui permettent d'être pour le moment solidement installé en milieu de tableau.
Bon, pas de demi-point du côté
du Galet. Peut-être pas dit qu'il avait droit, c'est pour ça.
Toi, Mathieu, t'es...
Alors moi je serais plus provocateur, moi je mettrais 9.
Ah ouais.
Pas 10 parce que rien n'est jamais parfait. Mais t'es le Havre, t'as pas une caillasse. On te promet tous les ans que tu vas être dans les 3 derniers. Et par rapport à ce que tu fais, t'as 12 points après 10 journées. Vraiment, le match d'hier, alors c'est pas le meilleur dans le jeu. Je pense qu'il y a eu des meilleures prestations contre Lens, contre Nice, même contre Strasbourg. Enfin, moi, je suis toujours bluffé de me dire que. Avec les moyens qu'il y a à disposition, que vous puissiez rivaliser avec Brest, qui faisait, même si Eric Roy n'aime pas qu'on parle de ça, mais qui disputait la Champions League l'année dernière. Je vois le Paris FC qu'on dit qu'il y a des moyens démesurés. Voilà, même Nantes, c'est quand même pas le, c'est quand ouais, même pas le vrai, même. Enfin, quand vous connaissez les salaires à Nantes, c'est quand même pas la même chose. Enfin, voilà, moi je suis vraiment bluffé. Alors c'est que 10 journées, bien sûr. Ça veut pas dire on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je pense toujours qu'en plus, il y a le mercato d'hiver et je pense que Mathieu Bonnemer et ses collaborateurs peuvent toujours trouver 2-3 joueurs qui peuvent bonifier l'équipe comme la saison dernière, qui peuvent être séduits par la perspective d'aller dans cette équipe-là. Moi, je trouve ça fort. Enfin, sur le papier, en début de saison, la place du Havre, c'est dans les 3 derniers. Et en fait, il faut mentir tout ça. Donc moi, je trouve vraiment ça bluffant.
Non, et puis effectivement, il y a le plan comptable, parce que 12 points, mais mine de rien, t'as que 3 points d'avance à date, t'as que 3 points d'avance sur le barragiste, ce qui n'est ouais. pas...
Alors, j'avais regardé aussi la saison dernière, c'était aussi très serré.
Oui, c'est resserré.
Parce que le Havre était 17e avec 9 points, ouais. Et il n'y avait que 3 points d'écart avec le 10e, 11e. Mmh. Ouais. Donc, les championnats 18 font aussi que, même c'est... si vous êtes au tiers de la saison, hein, Seb, on peut pas encore se décanter. Moi, je trouve ce qui est important, c'est le nombre de points que vous avez. Je trouve que c'est ça le,
ouais. La journée. Je disais, il y a le plan comptable, mais il y a aussi l'impression visuelle et l'impression dégagée, la dynamique, la solidité et tout ce que montre le HAC, que ce soit effectivement en termes de solidité, mais également en termes de production de jeu. Qui est effectivement très satisfaisant. Donc je vais mettre 7, peut-être pas 9 comme Mathieu, mais allez, on va mettre 7.
C'est pour être un peu provoque, hein, pour monter un peu le débat, quoi.
Mathieu est un super bon avocat, franchement. Je trouve ça dur à noter. L'an dernier, le HAC avait 12 points après 12 journées, mais avait eu 4 victoires et 8 défaites. C'était tout ou rien. Là, en effet, l'équipe a plus gagné dans sa capacité à gagner, à gratter des points, ce qui était un problème évoqué par Didier Dicard énormément de fois l'an dernier. Quelque chose qui lui manquait beaucoup, que son équipe n'arrive pas à prendre un point par-ci, par-là. 9, non. 8, non, pour une bonne raison.
On sait que les mecs à l'équipe, ils sont très sévères de toute façon. Donc,
déjà, on n'a pas le droit de mi-point. C'est souvent évoqué. Non, mais pour moi, c'est ce que tu viens de dire aussi, Mathieu, c'est que c'est un championnat 18, ça va très vite. Et même si ton début de saison est bon, comme l'a dit très bien Didier Garrière, c'est pas suffisant. Enfin, évidemment, la saison n'est pas finie, mais comme l'a dit Luc aussi dans le son, bah mine de rien, contre Metz et Lorient, c'est des matchs où tu prends que un point à chaque fois.
Oui, mais tu peux pas gagner tout le monde. Enfin,
je suis entièrement d'accord.
On attendait
sinon,
quand même.
Si tu gagnes tout le monde, tu vas finir par jouer l'Europe.
Ouais, mais alors attention, je vais te dire un truc très bête.
Ils ont le droit de faire des bons matchs aussi, les autres en face.
Oui, enfin, le match à Metz, excuse-moi.
Metz a le droit de gagner quand même.
En fait, je trouve que là, notre vision sur le début de saison, elle est faite aujourd'hui, évidemment, en rapport aux deux derniers matchs, à Auxerre et Brest. Et pour moi, le plus important.
C'est aussi quand même le début de saison qui était enthousiasmant d'un point de vue jeu, je veux quand même rappeler.
C'était pareil l'an dernier. Après 3 journées, t'avais 2 victoires, t'avais gagné à Saint-Étienne, t'avais battu Auxerre, tu jouais bien et tout le monde te disait le Havre va être la surprise de la saison. Il faut pas l'oublier.
Mais il n'y avait pas eu de confirmation derrière. Alors que là, ça ressemble à un début de confirmation comptable.
Pour moi, on fera vraiment un point, en tout cas, c'est mon point de vue, après les 2 prochaines journées.
D'accord, on a compris, il veut t'inviter dans le prochain podcast. Okay, d'accord, on a bien compris, pas de soucis, monsieur Buron. On note.
Ce sont 2 matchs très importants face à Toulouse et Nantes, que tu viens d'évoquer. Et imaginons que dans le plan scénario, tu repères ces 2 matchs, qu'est-ce qui dit que t'es pas dans la zone rouge? Et donc, c'est en ça que là, encore une fois, tu peux pas te précipiter, tu restes sur 2 bonnes prestations, mais mine de rien, offensivement, ça n'a pas été ton plus foufou. T'as été solide, t'as gagné 1-0, t'as affronté 2 équipes qui sont quand même malades, objectivement. Bref,
oui, mais chacun son problème, quoi. Chacun
sa vie. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que ces matchs-là, il faut les gagner, ils les ont gagnés, mais à l'inverse, faut pas non plus s'emballer, parce que ta prestation était solide, mais t'as pas été transcendant. Hier, t'as pas eu 40 occasions à Auxerre non plus.
T'auras pas 40 occasions. J'adore beaucoup Kotsen Kirimé, que je connais très bien. Tu seras jamais transcendant pour le moment en le faisant jouer devant. Tu bricoles.
C'est pour ça.
Déjà fou, tu veux faire un match de Ligue 1 avec.
C'est pour ça que moi, je me projette pas, tu vois. Parce que 9 sur 10, tu dis, dans 2 journées t'as perdu 2 matchs suivants et que finalement t'es 16ème, bah en fait ton 9 sur 10 ça va devenir quoi, un 5?
Un 7?
Ouais, bah
non. Non, mais là ce qu'on peut dire sur les 9 premières journées, c'est qu'à part 10 premières 10. Journées pardon, ouais,
bah, tu peux enlever Monaco, il n'y a pas de soucis.
En fait, c'est exactement ce que j'allais faire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que sur 9 matchs sur 10, le HAC a rivalisé, a existé, a pesé, ce qui n'était pas le cas.
Monaco, j'ai envie de dire, c'était pas.
À Monaco, j'avais l'impression que le gap était quand même très important entre le HAC et Monaco, mais sinon, il y a eu la deuxième mi-temps de Rennes qui est très correcte, il y a eu la première au Vélodrome.
Je pense pas en plus que la saison du HAC sera linéaire.
Non, mais pour moi, c'est mentalement où t'as vraiment franchi un immense cap, c'est que tu t'écroules pas. L'an dernier, à Monaco, le HAC perd 3-1, mais à 1-1, t'es sur le point de prendre l'avantage. Et il y a un but qui est refusé pour un hors-jeu qui est très minime, infime même. Mais tu prenais parfois des corrections à domicile, des 5-1, des 4-0, parce que mentalement, t'étais friable. Là, je trouve qu'en termes de mentalité, t'es beaucoup plus solide.
Edgar, il mise beaucoup aussi là-dessus, sur l'aspect mental, sur la confiance. Il le dit souvent, hein. Je leur dis qu'ils sont capables de le faire, je leur dis qu'ils ont les qualités pour rivaliser, pour exister.
Il a raison, je trouve.
Ouais. Mais il sait à quel point la confiance dans le sport de haut niveau et dans le foot en particulier est déterminante.
C'est spécial, c'est la part des anciens joueurs. Quand tu vois que t'as lui sur le banc, puis que t'as Mathieu Bonnemer, directeur sportif, forcément. Mais après, tout à l'heure, tu parlais d'Ancelotti. Il avait été beaucoup marqué, alors je crois de mémoire, il l'a pas beaucoup fréquenté, mais à Osasuna, par un coach, Enrique Martin,
oui,
qui était vraiment...
Au Bétis, non. Au Bétis, je crois. Peut-être Osasuna. Pardon. Ouais.
Très, 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 très important dans sa relation avec les joueurs. Toujours bienveillant dans les discussions, dans l'échange, ouvert, etc. Et ça, Didier Digard en parle souvent de ce coach aussi. C'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que pour moi, hier, entre guillemets, il n'avait pas trop de choix. S'il ne faisait pas tourner, il avait une chance de perdre son groupe. Et il se passe quoi ? Il se passe quoi si tu étais titulaire hier et que tu perds ? Tu étais titulaire hier, tu perds, et tes remplaçants, ils vont dire, non seulement je ne joue pas, tu laisses la même équipe, en plus ils perdent. Moi, je cherche à quoi ?
Ouais, mais tu restes 13e ou 14e, ça reste un début de saison
et tu
très correct.
On le disait et tu avec fais Mathieu, quoi au prochain match à Toulouse ?
Tu perds hier, ça reste un début de saison très correct.
Très bon.
Mais tu fais nul, c'est un bon début de saison.
Ouais, mais
gagnes,
tu fais quoi Toulouse ?
Presque
un... Tu fais quoi Toulouse ? Tu es contraint à remettre les mêmes titulaires ? Ou bien tu fais jouer les remplaçants qui, du coup, ils s'estiment peut-être lésés et puis ils vont faire un moins bon. On va te dire, t'as tout raté en fait, mon gars, dans cette semaine.
Après, t'es au niveau de ce qu'est le jeu, des moyens du hack, des ambitions du hack, des capacités du hack, et que on peut pas être non plus trop exigeant.
Non, mais c'est pour ça que justement, hier, je trouvais ça super intelligent.
Comme tu le disais, il y a ces matchs-là face à Toulouse, face à Nantes qui vont être hyper importants. Ça peut aussi bouger beaucoup. En fait, c'est un petit peu la Ligue 1 de cette année, encore plus peut-être que la saison dernière, parce que ça peut beaucoup bouger. En milieu de classement, en bas de classement, ça peut aussi beaucoup bouger en haut de classement, parce que je crois que les 6 premiers se tiennent en 2 points. Donc finalement, voilà, c'est difficile de faire des pronostics sur ce qui va se passer, forcément.
Ouais, mais enfin, voilà, ça, à date, voilà. Parce que la question c'était à date, le bilan, pour moi, il est nickel, quoi. Et voilà, et donc après, on sait pas ce qui se passera dimanche, on sait pas ce qui se passera contre Nantes, mais qui sont intrinsèquement, en début de saison, des adversaires supérieurs sur le papier et qui ont des moyens bien supérieurs. Et aujourd'hui, moi je me dis que Le Havre doit aller au stadium dimanche pour gagner, pour faire un match plein, pour gagner. Et il en a largement les moyens avec une vingtaine de joueurs, petite vingtaine peut-être, qui postulent à une place de titulaire. Et là-dessus, je pense que vous avez tout gagné. En tout cas.
Là, le petit bémol sur les dernières semaines. Alors, autant Le Havre, oui, est plus solide, mais les interrogations. Autant on savait là sur notamment en deuxième moitié de saison dernière que Le Havre avait cette capacité marquée à chaque match, autant là, les interrogations sur les prochaines semaines, ça va être dans le domaine offensif. C'est vrai que là, il trimballe un peu, il avait été excellent sur son côté gauche, là, il trimballe un petit peu, des fois à deux devant,
fois
dans l'axe. Oui, pour les besoins de la cause. Tu l'as dit, Mathieu, Samata, il attend toujours son premier but. Pizarro, pour le moment, il est hors course. C'est peut-être les petites interrogations quant au futur proche du hack. Comment
Il y a un mois de janvier. Je pense que déjà ça bosse dessus.
Oui, mais d'ici.
Devant, c'est compliqué. Mais bon, l'année dernière, vous avez quand même fait venir un garçon comme Ahmed Hassan, qui met 4 ou 5 buts. Je ne me rappelle plus exactement. Mais enfin, 4 ou 5 buts.
Il était co-meilleur buteur, non ?
Dans une équipe qui joue le maintien. Non, c'était Abdoulaye le meilleur buteur. Il n'a pas quand même mis 10 pions une demi-saison, sinon. Mais voilà, mais c'est hyper précieux. Plus les autres recrues, notamment Junior Manga. Moi, je me dis que la saison du Havre, pour moi, elle se construit forcément en deux temps. Il y a ce que vous faites jusqu'à Noël.
Oui, bien sûr.
Où, voilà. Et vous savez qu'au Mercato, surtout avec la renommée qu'a acquis le club avec Mathieu Bonnemer, qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas dans certains clubs. Quand Mathieu Bonnemer va venir toquer à leur porte, ils vont dire ouais, moi, me relancer, je vais venir pour 6 mois. Ça a un bon club, il y a un bon groupe, il y a un bon coach. Tous les échos sont positifs. Et je vais me dépouiller pour ce club-là. Ouais, même 5 mois.
Surtout,
c'est le foot d'aujourd'hui, c'est comme ça.
Surtout si t'es 12e, 13e, 14e. Surtout
Là, plus tu seras haut en plus. Mais t'as réussi l'année dernière en étant avant-dernier.
Faut pas oublier un truc, c'est que l'an dernier, à un moment, Le Havre s'est maintenu parce qu'à un moment, ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas de choix. Fallait partir devant, en fait. Fallait marquer des buts. Enfin, ma phrase peut paraître ridicule. Mais à un moment, Le Havre n'arrivait pas à défendre. Quand ils jouaient en bloc bas, à chaque fois, ça virait très souvent la catastrophe parce qu'ils n'arrivaient pas à défendre. Et la seule solution pour eux d'avoir des bons résultats, c'était d'attaquer et de marquer. Tu vas gagner à Lens 4-3, tu vas marquer 2 ou 3 buts dans plusieurs matchs.
3-2 contre Nantes.
Tu marques des buts.
Là, 3-2 à Strasbourg déjà, tout simplement.
Là, pour moi, t'es devenu une équipe, entre guillemets, plus pragmatique. ça veut dire que tu t'as pas besoin de partir dans tous les sens pour marquer des buts, tu sais que t'es plus solide et qu'à un moment si tu marques ton but, bah mine de rien tu peux gagner, et c'est ce qui vient de se passer en fait. Et c'est une, et pour un entraîneur, alors Didier Ligard répète sans, très souvent qu'il préfère gagner 5-4 qu'un 0, mais je pense
mine de rien que
il l'a redit en effet hier soir, mais je pense quand même que quand tu gagnes 1-0, ça t'offre plus des garanties que 5-4.
Bah c'est, je pense, la preuve de progression d'une équipe et d'un groupe.
Et puis le soulagement, quand même, c'est extraordinaire. Tu sais que tu marques un but, t'as déjà une grande chance de pas perdre. Ouais. Et un an, t'en mettais deux, tu peux en prendre cinq.
Même du non, effectivement, t'es pas plus stressé que ça quand tu vois la fin de match.
Pas hier, en tout cas.
Ouais, alors oui, tu
même,
défends,
même à Auxerre, hein. Même à Auxerre, franchement, Auxerre a essayé à un moment de mettre un peu de folie, mais.
Mais là, ça va être intéressant, Toulouse. C'est encore l'occasion de voir si t'as franchi un step, parce que Toulouse, ça reste une belle équipe de Ligue 1, c'est à l'extérieur, c'est au bout d'une semaine à trois matchs.
Qui remonte deux buts, il y a un
mec
derrière Rennes.
Qui remonte deux buts encore hier.
Ça, tu l'as fait aussi.
Tout le monde le fait, c'est ça.
Tout le monde le fait.
Je sens une pique envers nos amis Rennais, là, tout d'un coup.
Mais non, ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir encore de quoi le hack sera capable. Et effectivement, il y a ces deux matchs, il y a Toulouse-Nantes, mais je crois que la fin d'année, par contre, elle va
Lille.
Être...
Je l'ai là.
PSG.
Il y a PSG, Lille. Ah, il y a le Paris-FC.
Paris-FC, voilà.
Il y a Lyon.
Et à Lyon. Donc, ouais,
PSG
ça,
au PSG,
ça va être coton.
Lyon à
Lille
Lyon,
à domicile.
Lille à Océane, voilà. Et le PSG aussi à Océane. C'est les quatre dernières journées de Ligue 1.
Ça va être coton.
Voilà, sachant que vous terminerez l'année par le 32e de finale de Coupe de France.
D'où mon 6,5 sur 10. Bon, la note que je n'ai pas donnée de
taille. Seb, en fait, quand vous dites. T'as arrêté bon en tant que prof. Tu fais un bon devoir. Non, je te mets que 12 parce que je sais que tu vas chier le prochain contrôle. Alors, du coup, je te mets un avertissement déjà. Ça va pas être bon.
C'est ce que dirait un coach. Il garde ses troupes en éveil.
Ouais, c'est ça.
Mais bien sûr, évidemment. Tu vas dire, les gars, c'est formidable. Tu dis ça à tes joueurs.
On demande un jugement à date, à l'instant T. On ne demande pas ce qui va se passer dans deux semaines.
Ouais, mais quand
on fait une émission tous les 15 jours. Faut qu'il nous reste des trucs à dire dans 15 jours.
Quand tu gères une structure, tu peux pas te projeter. À l'immédiat, tu es obligé de voir à moyen long terme.
C'est que je suis en première année sur Football Manager, donc c'est pour ça.
Non, puis je rappelle que Eric Roy a dit hier que les entraîneurs qui ne sont pas inquiets sont des fous, donc évidemment, toujours inquiétude et vigilance.
Bah, du coup, visiblement, il est très sain d'esprit, Eric Roy, parce qu'il a l'air très très inquiet.
Bon, on va terminer avec le tour habituel des autres formations du HAC. Ça sera plutôt rapide, puisque les filles étaient au repos pour trêve internationale. Et chez les jeunes, il y avait que la réserve havraise sur le pont ce week-end, des ciels et marines dominateurs. Mais tenu en échec par Gonfreville, un but partout, le HAC qui reste leader. Puis à noter aussi la troisième journée du Challenge Espoir hier après-midi sur la pelouse de Deauville, le Havre qui recevait Lens, leader invaincu de la poule. Ça fait un partout et ensuite les tirs au but, une défaite au tir au but pour les Havrais. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler le calendrier donc du week-end, 11e journée de Ligue 1 dimanche à Toulouse. Le TFC qui est actuel 9e du championnat avec 14 points, ce sera à 17h15. Et puis on a un Arkema quand même du lourd face aux filles de Maxime Di Liberto avec un déplacement sur le terrain du PSG féminin samedi à 17h. Paris qui a souvent été quand même accroché par les Havraises, je crois, ces dernières saisons. Donc on verra ce que ça donne cette fois-ci. Merci infiniment, messieurs, d'être venu vous asseoir à la table du débrief 100% HAC. Sébastien Buron, on vous lit dans l'équipe, et David Poinel dans Paris-Normandie, Mathieu Billeux, footnormand.fr évidemment, et puis l'actu du foot régional, c'est aussi dans le courrier Cauchois, nos deux partenaires pour ce podcast que vous retrouvez sur tendanceouest.com et les sites Deezer, Spotify, fin de partie, et à très bientôt pour un nouveau débrief.